Salut, c'est Steven Jambeau. Vous écoutez l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, un peu plus si vous avez la bonne idée d'écouter notre podcast. Cette émission est diffusée sur RFI à la veille de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Aussi, je vous propose un coup de projecteur sur deux projets portés par et pour des femmes. Il est question de médias, évidemment. Tout à l'heure, Emily Friedli, directrice de la résidence Creatis, nous présentera Source, un programme visant à accompagner les entrepreneurs inspirés mais éloignés de l'écosystème des médias et de la culture. Mais d'abord, un trimestriel vient tout juste d'être lancé en France. C'était jeudi, donc c'est tout frais. Son titre, La Déferlante, et il se présente comme la revue des révolutions féministes. Son ambition est de devenir la revue de référence sur les questions féministes, celle qui va raconter l'effervescence de notre époque sur ces questions. Pour l'Atelier des médias, Juliette Labracherie a rencontré à Paris une des quatre cofondatrices de La Déferlante.
Bonjour Marion Pilas.
Bonjour.
Parlons du titre de votre revue. Une déferlante, c'est une vague, c'est aussi un phénomène massif et brutal. Qu'est-ce qu'elle représente, cette déferlante ?
La déferlante, bah, vous l'avez dit, c'est cette vague, ce mouvement implacable. Et pour nous, c'est ce qui se passe avec les révolutions féministes et les mouvements féministes de manière générale et ce qui se passe en ce moment. La déferlante, c'est aussi un clin d'œil à ce concept historique des vagues du féminisme. C'est pas un concept qui fait l'unanimité, mais qui existe et dont on parle beaucoup. Et puis, le dernier élément, c'est que la déferlante, c'est aussi une espèce de pied de nez à quelque chose qu'on dit souvent aux femmes et aux jeunes filles, ne fais pas trop de vagues. Alors voilà, nous, on fait une vague et elle est plutôt grosse.
Alors effectivement, il y a un bouillonnement autour de ces mouvements féministes et pourtant vous faites le choix de publier une revue trimestrielle. Pourquoi ce choix du temps long ?
On a voulu être à la fois présente dans le débat, donc on aurait pu être sur une périodicité beaucoup plus longue, type semestrielle ou même annuelle. En même temps, on va aussi prendre le temps. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, il y a énormément de choses qui sont publiées, que ce soit en librairie, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit les podcasts. Il y a un vrai bouillonnement. Donc nous, on prend en compte tout ce qui se passe, tout ce qui est dit, on le digère un peu. Et on sort donc tous les trois mois une revue qui essaie de mettre tout ça en perspective et de penser un petit peu l'époque au prisme des féminismes et des questions de genre.
Alors vous n'êtes pas le premier média féministe, hein. Je pense notamment à Cosette ou à Chic Magazine pour les plus connus. Mais alors vous, la déferlante, qu'est-ce que vous apportez de plus ?
Nous, on va un cran plus loin, non pas en qualitatif, mais en termes de démarche. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de penser les sujets, de mettre en perspective, de faire se rencontrer dans nos pages une pluralité de regards, les regards des journalistes, les regards, l'expertise militante, l'expertise universitaire, et prendre en fait l'époque comme sujet d'étude, comme sujet de réflexion, et en fait éclairer l'époque avec tous ces regards-là, et donner au final, l'idée c'est qu'il en résulte des outils pour les lectrices et les lecteurs, pour penser ce qui nous arrive, cette espèce de bouillonnement et de révolution féministe, mais aussi pouvoir argumenter. On sait que c'est une préoccupation importante chez les personnes qui s'intéressent au féminisme, de pouvoir un petit peu argumenter sur ces questions-là qui ne sont pas toujours faciles à saisir.
Vous parlez d'époque, est-ce qu'on peut dire que vous faites partie d'une nouvelle génération de médias qui s'inscrit dans une époque post-MeToo ?
Là où on est dans une nouvelle génération, c'est que je pense qu'on est des médias féministes créés par des femmes. C'est pas anodin. On est quatre cofondatrices. On a un comité éditorial un peu plus large qui est composé à ce jour exclusivement de femmes. Ça veut pas dire que des hommes pourront pas y entrer, mais tel est le cas aujourd'hui. Et dans un paysage médiatique où en fait les femmes dans les médias, dans la presse, dans l'édition sont beaucoup plus précarisées, une revue qui est créée par des femmes, qui emploie des femmes aussi, c'est quelque chose qui nous semble important politiquement.
La déferlante, ça mêle à la fois reportage, entretien, chronique, mais aussi bande dessinée et photos. On peut aussi s'abonner à votre newsletter. Pourquoi c'était important de proposer autant de formats ?
ces formats, ce sont autant de portes d'accès à ces questions-là. Et puis proposer aussi un média qui soit à la fois une revue trimestrielle, une newsletter, mais aussi, on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, pour faire de la curation aussi d'articles, des recommandations de livres, d'essais, etc. Ce spectre assez large, il permet de toucher le plus de gens possible. Et c'est quand même l'intérêt de notre démarche, c'est d'être lu, voilà, et par le plus grand nombre.
Alors vous dites ça, toucher le plus de gens possible, vous vous adressez à quel public ?
On s'adresse a priori à un public plutôt féminin, qui n'est pas un public militant, mais qui s'intéresse aux questions féministes. Après, on a constaté, notamment avec notre campagne de pré-vente, et puis avec les retours qu'on commence à avoir aujourd'hui, que le spectre en termes d'âge est très large, c'est-à-dire que ça va de très jeunes femmes qui ont à peine, voire moins, d'une vingtaine d'années, à des femmes qui ont plutôt vécu d'autres mouvements féministes avant. Et donc, on est assez heureuse de pouvoir réunir tout ce monde-là.
Alors moi, je pense aussi aux origines sociales. Hein. Vous êtes soutenu par une grande communauté de journalistes, de chercheurs, de militants. Est-ce qu'au final, vous ne vous adressez pas déjà à un public de convaincus ?
Si on est présente aujourd'hui dans 1000 librairies en France, c'est bien parce qu'on veut s'adresser à un lectorat assez large. C'est effectivement important de se poser la question d'où on parle, nous, en tant qu'équipe, je dirais de la Déferlante, en tant que revue, et à qui on s'adresse. Clairement, nous, on est quatre fondatrices, cofondatrices issues du monde des médias et de l'édition. Notre comité éditorial, effectivement, est composé de militantes, d'universitaires et de journalistes. Mais l'idée, c'est aussi de diversifier le plus possible, par exemple, ce comité éditorial, de diversifier le plus possible les plumes qui vont écrire dans la revue et donc les regards qu'on va trouver dans la revue. Et donc l'idée, vraiment, j'allais dire une de nos priorités, si ce n'est notre priorité, c'est d'aller chercher des gens qui ne sont pas nous, qui ont d'autres vécus. Et dans notre cas, bah, par exemple, des femmes racisées, des personnes trans, des personnes porteuses de handicap, parce qu'on est persuadé que pour élargir notre regard sur la société, pour mieux la comprendre, pour mieux la voir, en fait, on a besoin de cette diversité de regards.
Alors, dans votre premier numéro, vous abordez des sujets très différents, hein, que ce soit l'impôt sur le revenu, les séries animées, la révolte de Plogoff. Est-ce que ça veut dire que tous les sujets peuvent être analysés sous le prisme du féminisme ?
Je pense que absolument l'intégralité des sujets et l'ensemble de la société peut être analysée au prisme des questions de genre et du féminisme. Ça, moi, personnellement, j'en suis convaincue. Et on en est convaincus collectivement. C'est d'ailleurs la démarche de la revue. En fait, pour nous, c'est presque une question, je dirais, déontologique. Alors, on a ce concept qu'on utilise beaucoup, qui sont les lunettes de genre. Voilà. Quand on met nos lunettes de genre, c'est-à-dire quand on commence à se poser la question du genre dans les faits de société, finalement, on se met à voir des choses qu'on ne voit pas autrement. Donc, c'est par exemple l'objet d'un papier dans le numéro 1 de la Déferlante, si on regarde les dessins animés pour enfants, on se rend compte que dans la plupart des dessins animés, et ben les petits garçons sont représentés comme turbulents, les petites filles plutôt sages, et que ça a une influence sur les enfants qui les regardent. De la même manière, on a cette chronique sur la fiscalité, qu'est-ce que ça raconte ? Et ben ça raconte simplement que en fait, dans les couples, la fiscalité favorise la personne qui gagne le plus d'argent, et dans trois quarts des cas, la personne qui gagne le plus d'argent dans un couple, c'est l'homme, ça c'est statistique, c'est documenté. On sait, alors après c'est des chiffres dont on a un petit peu plus parler, mais par exemple, si on reprend la question des violences sexuelles et du viol, on sait que si on regarde les auteurs de viol, eh ben, à 94%, ce sont des hommes, et ça raconte quand même quelque chose de notre société. Donc oui, on revendique vraiment de pouvoir raconter l'époque et la société au prisme de ces questions-là, de manière régulière, répétée et sur le long cours, je dirais.
Dans votre manifeste, vous dites vouloir prendre parti aux différents débats féministes. Vous dites aussi que tous les points de vue ne se valent pas. Qui sont celles et ceux à qui vous ne donnerez pas la parole ?
Tout ce qui est propos transphobes ou racistes, bah, clairement, ça ne veut pas dire qu'on les invisibilise totalement. Ils existent, mais on ne va pas donner une tribune, on ne va pas interviewer quelqu'un pour qu'il puisse dérouler ces idées-là. Donc voilà, notre limite, elle se situe là. Après, il y a quelque chose de très important, c'est que le champ du féminisme, qui est notre sujet qui nous intéresse, il est traversé par des courants, il est traversé par des débats avec des gens qui sont parfois très fâchés entre eux. Et ça nous intéresse beaucoup comme sujet d'étude. Donc on n'est pas en train de dire on va parler d'un seul courant du féminisme. Au contraire, ces courants du féminisme, on veut les faire se rencontrer. On veut voir ce qui se situe à l'intersection de ces courants-là. On pense qu'une pensée en mouvement, avec du débat, c'est une pensée vivante. Et donc, le féminisme est une pensée vivante. Et c'est comme ça qu'on a envie de l'appréhender. Donc, il ne s'agit pas, du coup, d'être d'un côté ou de l'autre. Et finalement, je crois que c'est ça qui illustre bien cette position d'observateur, d'observatrice engagée. Nous, l'expertise militante, on la trouve très intéressante. Après, ce n'est pas notre position à nous en tant que revue. On l'intègre dans les points de vue, on l'intègre dans les vécus et dans les expériences qui peuvent avoir leur place dans la revue. Mais nous, notre position, c'est plutôt un engagement qui se situe notamment au niveau du regard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit d'où on parle aussi, en tant que de quoi on parle. Et c'est d'ailleurs un effort qu'on fait soit nous, soit les autrices elles-mêmes qui écrivent dans la revue et les auteurs, car il y en a. C'est important pour nous aussi de remettre un peu sur le grill cette question de la neutralité, on va dire, des médias en France, qui est intéressante, mais qui en même temps nous semble un peu illusoire. On a tous et toutes un vécu. On parle tous depuis une expérience et depuis ce vécu. Et ça nous semble assez honnête et finalement assez déontologique de le mettre en avant.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans les médias traditionnels, les journalistes devraient plus montrer de là où ils viennent ?
On n'est pas là pour dire aux autres ce qu'ils ont à faire. Ce que je vois surtout, c'est qu'il y a quand même un gros mouvement dans la presse et dans les médias autour de la prise en compte des questions féministes et des questions de genre. C'est vrai qu'on a dans des médias de référence ce qu'on appelle les gender editors qui sont nommés, donc des journalistes spécialisés dans ces questions-là, qui réfléchissent à la fois à la manière dont sont traitées ces questions dans leur publication, mais aussi dont leur entreprise de presse fonctionne au prisme du genre. Encore une fois, on a des médias de référence qui consacrent des dossiers, beaucoup de temps d'enquête à des sujets comme les féminicides, comme l'inceste. Je pense à cette Une du Monde il y a quelques mois qui titre sur l'inceste un crime commis en grande majorité par des hommes. C'est quand même un truc assez fort. Enfin, c'est pas une prise de position, c'est un fait, mais qui il y a quelques années aurait sonné comme quelque chose d'assez militant. Aujourd'hui, c'est Le Monde qui dit ça. Voilà. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui pousse, que nous ont dit les gens dans les médias qu'on a rencontrés au moment du projet pour élaborer le projet, c'est qu'il y a vraiment, par exemple, une génération de jeunes femmes journalistes qui poussent beaucoup sur ces questions-là. Donc il y a, je crois, un mouvement qui va dans ce sens-là, ouais.
Vous le dites vous-même, il y a des luttes très différentes au sein du mouvement féministe. Est-ce que vous pensez pouvoir fidéliser sur le long terme une audience assez large ?
Avec cette idée, je crois, de revue utile aussi, avec des outils, une boîte à outils sur ces questions-là, je pense qu'on peut toucher beaucoup de monde. Je pense qu'on peut toucher à la fois des gens des personnes qui sont déjà à un niveau de connaissance assez important, parce qu'on va apporter, des textes littéraires, on va apporter de l'illustration, de la bande dessinée, des choses qui sont pas forcément lues par les personnes militantes toujours, en tout cas qui sont parfois en dehors de ce champ purement militant. Et puis en même temps, pour les personnes qui, elles, sont moins connectées à ces questions-là, eh bien, on va aussi avoir des portes d'entrée avec des articles dont on tient à ce qu'ils soient très, très accessibles. Je pense que, d'une certaine manière, on voudrait que tout le monde se retrouve un peu dans cette revue et qu'effectivement, aussi bien une jeune militante de 20 ans parisienne et idéalement ses parents qui habitent loin des grandes villes, mais qui ont un œil ouvert sur la société, sur l'actualité, puissent lire la même revue. Ouais.
Donc au final, à partir de quoi ou de quand on peut dire que la déferlante sera un succès ?
Je pense que là, pour l'instant, ce qui est important à dire, c'est qu'on a fait à peu près 6000 préventes de la revue sur la campagne qui a eu lieu à la fin de l'année dernière, sur Kiss Kiss Bang Bang. Il y a eu 2600, si je ne dis pas de bêtises, abonnements à la revue. C'est important, les abonnements financièrement, en termes de trésorerie pour la presse. Donc ça, c'est déjà chouette. Il faudrait qu'on ait à peu près le double. Voilà, on va être distribué, enfin mis en place dans un peu plus de 1000 librairies en France, en Suisse, en Belgique, même jusqu'au Canada. Donc on est sur un beau départ. Après, nous, voilà, encore une fois, notre objectif, c'est d'être financé par nos lectrices et nos lecteurs. La déferlante sera un succès quand on aura cette autonomie-là. Et là, on pourra dire qu'on a réussi quelque chose, sachant que je crois que dans la presse et dans l'édition, il n'y a jamais de victoire définitive. Hein. On est toujours un peu en train de se battre. Mais bon, voilà, ça ne nous dérange pas. On connaissait le deal dès le départ.
C'était Marion Pilas, une des quatre cofondatrices de la revue trimestrielle La Déferlante, au micro de Juliette Labracherie. La Déferlante s'achète en librairie au prix de 19 euros et est disponible également sur abonnement. Pour en savoir plus, un seul site, revueladéferlante.fr.
L'atelier des médias.
Des projets de médias comme La Déferlante, portés par des femmes, il y en a. Mais finalement, encore trop peu. C'est pour tenter de remédier à cela que la résidence Creatis, un incubateur basé à Paris, a lancé fin janvier le programme Source. Son objectif, accompagner la création de médias et d'entreprises culturelles portées exclusivement par des femmes et plus spécifiquement par celles qui sont éloignées de ces univers, à la fois socialement et économiquement. Pauline Linard-Cazanave a rencontré pour nous cette semaine à Paris Émilie Friedli, directrice générale de Creatis. Leur conversation a débuté sur le rapport parlementaire de la députée française Céline Calvez, publié en septembre 2020. Il contenait notamment des préconisations visant à renforcer la présence des femmes dans les médias. Première question pour Émilie Friedli, savoir si le rapport Calvez a été un des éléments déclencheurs du programme Source.
Oui, c'est effectivement un des éléments déclencheurs. En fait, si je résume, il y a trois éléments déclencheurs. Le premier, c'est plus généralement, au-delà des médias, en fait, la place des femmes dans l'entrepreneuriat. Si je me base sur des chiffres récents publiés par Sista, qui est un collectif qui milite pour plus de mixité dans le numérique, dans l'écosystème numérique. Aujourd'hui, au rythme où on va, on atteint la parité dans l'entrepreneuriat en 2090. Voilà. On sait que les femmes entreprennent moins que les hommes, et on sait que quand elles entreprennent finalement plutôt en créant des petites entreprises ou des entreprises individuelles. Donc voilà, la place des femmes dans l'entrepreneuriat. Le deuxième sujet, c'est les financements. On le constate tous les jours, les femmes effectivement obtiennent moins de financement que les hommes quand elles en obtiennent. Donc ça c'est le deuxième problème et le deuxième constat. Et le troisième c'est évidemment ce à quoi vous venez de faire référence, c'est-à-dire la place des femmes dans les médias. Voilà. Et que ce soit la place dans les médias, c'est-à-dire à la fois dans les contenus, mais aussi dans les organisations qui produisent ces contenus. Donc les besoins spécifiques qu'on a identifiés, c'est un besoin plus intensif, plus important dans la recherche de financement, évidemment. C'est le nerf de la guerre. Un second besoin identifié, c'est être plus visible, assumer d'être plus visible, avoir confiance en soi. Donc tout ce travail qu'on va essayer de mener avec les mentors sur la visibilité et la confiance, ça, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique. Et puis ensuite, il y a un troisième point que je ne vais peut-être pas développer tout de suite, mais effectivement qui est aussi un point quand même très particulier, qui est la gestion de la maternité et de l'entrepreneuriat, puisqu'en fait, il y a un certain nombre de femmes qu'on accompagne qui doivent gérer les deux, la maternité et l'entreprise. Et donc ça, c'est aussi des sujets sur lesquels on se penche actuellement.
Pour rappel, donc Source est un programme qui est destiné à la création d'entreprises médiatiques et culturelles. Pourquoi viser ces deux domaines-là ? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un problème de représentativité, particulièrement dans le secteur des médias et de la culture ?
Les chiffres dont on dispose nous permettent d'affirmer que cette sous-représentativité des femmes qu'on constate dans toute la société, dans tous les secteurs, elle est applicable à la culture et aux médias. Et dans les médias, nous, le constat qu'on a fait avant de mettre en place des politiques volontaristes, c'était qu'effectivement, on avait davantage de porteurs de projets hommes qui s'adressaient à nous. Moi, quand je suis arrivée à Creatis en 2015, 75% des projets médias étaient portés par des hommes.
Quand vous présentez Source, vous écrivez aussi dans le manifeste que l'objectif du programme, c'est de bousculer, décloisonner, féminiser le paysage médiatique. Pour vous, en quoi le paysage médiatique doit être bousculé, décloisonné et féminisé ? Est-ce que c'est trois temps particuliers pour vous dans le travail que vous faites avec ces femmes ?
On parle vraiment de diversité. C'est féminiser, mais c'est ouvrir aussi à une diversité de profils. Moi, ce qui me choque profondément, c'est l'entre-soi dans ces secteurs de la culture et des médias. Et la problématique en fait, que moi j'ai envie de traiter à travers mes programmes, c'est effectivement la question des femmes, mais c'est la question de la diversité au sens large, en fait. Et le problème aujourd'hui des médias, notamment, c'est qu'ils ne reflètent pas la réalité de la société. Donc c'est ça aussi, c'est ouvrir à des profils très différents. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans le cadre de ce programme. Ça veut dire faire émerger de nouvelles voix, ça veut dire faire émerger de nouvelles visions sur des sujets qu'on a l'habitude de traiter, mais aussi peut-être sur des sujets qu'on traite moins. Je prends l'exemple d'une entreprise, Bios Media, qu'on a accompagnée l'année dernière. Eux, leur sujet, c'est de mettre en avant les populations afro et afrodescendantes. Voilà, c'est un sujet qu'on ne traite pas. Et faire émerger de nouvelles voix, oui, c'est essentiel. Aujourd'hui, les contenus, ils sont proposés ou pensés en grande partie, ou les contenus médias, en grande partie par des populations donc citadines et plutôt parisiennes, et par des personnes plutôt très diplômées. Donc c'est intéressant d'ouvrir, et puis des personnes qui ne sont pas forcément très jeunes. Donc c'est essentiel d'ouvrir. On le fait là à travers Source, mais on le fait aussi à travers d'autres programmes. Là, on va lancer dans un mois et demi un programme à l'échelle nationale pour faire émerger de nouveaux médias dans toute la France. C'est un programme qui va se dérouler exclusivement à distance, mais qui va permettre à n'importe quelle personne, donc je pense à la personne qui habite dans un bled paumé, qui a envie de lancer son média, et ben cette personne peut demain être accompagnée. Et c'est ça aussi, faire émerger de nouvelles voix. Voilà.
Vous précisez que ce programme est plus particulièrement destiné aux femmes qui sont éloignées de l'écosystème des médias et de la culture. Pourquoi, pour vous, c'est important de rechercher ces femmes qui ne sont pas en contact direct avec le paysage médiatique ou culturel?
C'est une manière pour nous de dire qu'on ne va pas accompagner en priorité des femmes qui n'en ont pas nécessairement besoin. Aujourd'hui, il y a des femmes qui connaissent par cœur ces écosystèmes, qui ont parfois déjà monté des projets. Il y a aujourd'hui beaucoup de ressources en ligne. Donc s'adresser à des femmes qui n'ont pas encore le réseau, ça nous semble primordial. Voilà. Et c'est vrai que sur cette appel à candidature en particulier, on aimerait attirer des jeunes, et qui dit aussi jeunes et jeunes diplômés, dit pas encore en fait de contact et de réseau, et on sait à quel point le réseau c'est important.
Qu'est-ce que vous avez pu observer concernant les projets proposés, les formats qui prédominent dans vos candidatures?
70% de projets médias, 30% de projets culture, et sur les médias, une grosse dominante, le podcast et la newsletter. Voilà. Énormément de projets podcast et beaucoup, beaucoup de projets féministes.
J'ai suivi beaucoup de chemins, j'ai ouvert de nombreux sentiers.
C'était Émilie Friedli, directrice générale de la résidence Creatis, qui a lancé à Paris le projet Source d'accompagnement d'entreprises de la culture et des médias portés par des femmes. Un entretien mené par Pauline Linard-Casanave. Les informations pratiques sont à retrouver sur residencecreatis.com. C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Mondoblog Audio qui donne à entendre les blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Cette semaine, je vous propose d'écouter une de nos blogueuses ivoiriennes, Mariam Sorel. Elle évoque la journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes.
En Côte d'Ivoire, la journée du 8 mars est plus synonyme de festivité qu'autre chose. La journée internationale des droits des femmes se résume souvent à des défilés pour montrer la beauté du pagne liée à l'événement. Mais cette tendance est de plus en plus critiquée aujourd'hui. Le vent du féminisme qui souffle en Côte d'Ivoire a fait comprendre à bon nombre de femmes et d'associations que la journée du 8 mars doit être célébrée autrement. Cette journée ne doit plus être conçue comme un cérémonial de danse et de festin où des pagnes sont mises à disposition des femmes pour qu'elles s'embellissent. Parce que le 8 mars, ce n'est pas la fête de la femme. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Pourtant, si chaque année le pagne change, les conditions des femmes ivoiriennes, elles, ne changent pas. La commémoration du 8 mars permettra de lutter efficacement contre les violences faites aux femmes en Côte d'Ivoire quand les Ivoiriennes auront pris conscience du véritable sens de cette journée. Quand elles comprendront qu'elles n'ont rien à célébrer ce jour-là, mais tout à revendiquer. Revendiquer pour le respect de leurs droits dans une société encore machiste et profondément ancrée dans le patriarcat. Le 8 mars devrait être une journée d'action, de revendication, de débat et de dialogue. L'État, les activistes doivent toute l'année œuvrer à atteindre des objectifs clairs et précis. Et chaque 8 mars, ils devraient faire le point de ce qui a marché ou pas et redéfinir des chantiers prioritaires. Il faut faire du 8 mars une journée de bilan d'action concrète. Il reste beaucoup à faire pour les femmes et notamment les femmes africaines. La grande révolution n'a pas encore eu lieu. Cette journée doit vraiment être l'occasion de mettre à nu les violations et discriminations qu'elles subissent pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. Alors si la célébration du 8 mars est prise au piège entre panne et revendication, moi je dis, ce jour-là, sapons-nous comme jamais si nous le voulons. Mais qu'est-ce qu'une femme paraît si elle ploie sous les injustices? Une fois dévêtue, que ferons-nous? Les chantiers sont nombreux et les défis sont énormes. C'est de cela dont il faut parler le 8 mars.
Mondoblog.org.
Vous pouvez retrouver ce billet sur le blog de Mariam Sorel, mariamsorel.mondoblog.org. Il y est principalement question des sujets de société et notamment de la condition des femmes aujourd'hui. Et puis sachez que vous pouvez toujours candidater pour devenir vous aussi une blogueuse ou un blogueur de RFI. Le concours est ouvert jusqu'au 15 mars. Le thème « Toutes et tous actrices et acteurs du changement ». Pour candidater, ça se passe sur mondoblog.org. C'est la fin de cette émission que vous pouvez écouter en version longue sur toutes les plateformes et applications de podcast. Spotify, Deezer, Castbox, Podcast Addict ou encore Apple Podcast. Si vous aimez l'atelier des médias de RFI, donnez-nous 5 étoiles sur ces applications, cela nous permettra d'être visible et donc encore plus écouté. Écrivez-nous à l'adresse atelier@rfi.fr ou via les réseaux sociaux, nous ne sommes pas durs à trouver. Merci à Simon De Creuse qui a réalisé comme chaque semaine cette émission et à Camille Delon qui a orchestré Mondoblog Audio. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.